Bonsoir et bienvenue dans le studio aménagé au sein de Tournée Expo par les équipes de nos télés. Ce soir, c'est le dernier débat de la campagne sur nos télés et il est consacré à la ville de Tournée.
Tournée, c'est la plus grande commune de Wallonie jusqu'aux prochaines élections. Elle perdra son titre en faveur de la nouvelle entité fusionnée de Bastogne. Appelée aussi la cité des 5 clochers, Tournée s'étend sur 213 km² et 29 villages où vivent 68 544 habitants. Le taux de chômage y est de 13,9% et le revenu annuel y est de 19 105 euros.
Autour de la table, nous avons 5 partis, PS et Écolo qui forment la majorité sortante, le MR, les engagés et le PTB.
Et le débat se déroulera en deux parties. Nous parlerons d'abord de logement et de sécurité, puis avec d'autres candidats, de la ruralité et de l'interaction entre le centre-ville et les 29 villages.
Mais avant cela, un petit rappel des faits marquants de la législature écoulée, c'est la séquence bilan.
Le scrutin de 2018 a conduit à deux évolutions politiques marquantes à Tournée. D'une part, Paul-Olivier Delannoy a réalisé le meilleur score personnel et a doublé ainsi Rudy De Motte pour le poste de bourgmestre. D'autre part, Écolo a gagné 4 sièges et a pu ainsi conclure sa première participation au pouvoir local en coalition avec le PS. L'impulsion de cette équipe inédite s'est montrée à travers la politique de logement. Logis tournésien, Régie foncière et CPS ont rénové plus de 200 logements au cours de la législature et des réglementations ont été prises pour conforter le rôle de l'agence immobilière sociale. Cette politique a été financée grâce à la vente de biens vétustes. Sous cette législature, on a aussi vu éclore dans les villages les premières réalisations liées au budget participatif à Warchin, Froidmont et ailleurs. Cette équipe inédite a accompagné la concrétisation de toute une série de grands chantiers lancés sous la législature précédente, Tournée Expo, le pont des Trous, le parvis de la gare et la rue Royale, mais aussi le Mont-Saint-Aubert, la Maison de la Culture et la Bibliothèque. Il n'y a pas vraiment eu de grande polémique politique durant ces 6 années, au-delà des éternels débats sur l'insécurité, le dépérissement du centre-ville et le stationnement payant qui traverse les différentes majorités. Les échanges les plus vifs entre majorité et opposition ont peut-être concerné la rue Saint-Martin, une voirie essentielle de la ville mais dont l'état est plus que déplorable. La majorité aurait voulu la rénover en utilisant du béton désactivé, moins onéreux et plus facile d'entretien que les pavés, mais elle n'a pas été suivie ni par l'opposition, ni surtout par le ministre de l'aménagement du territoire, à l'époque le MR Willy Borsu. La rue Saint-Martin devrait être refaite avec un revêtement 90% en pavé, ce sera vraisemblablement l'un des chantiers prioritaires de la future majorité.
Voilà, nous avons les choses bien en mémoire et commençons par notre première thématique, le logement. Alors je commence par vous, Coralie Ladavid, vous êtes échevine du logement. Vous souhaitez que dans les projets immobiliers de plus de 10 logements, 10% soient consacrés à des habitations à loyer modéré. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était déjà en fait d'application à Tournée ?
Oui, donc ça a été mon combat pendant cette législature. Et effectivement, on a mis en place ce dispositif. Donc à partir de 10 logements créés, un logement est un logement à loyer modéré pour permettre à tout le monde d'avoir un accès au logement. Alors, c'est une disposition qu'on a prise à Tournée, mais qui n'est pas obligatoire. Et donc, nous, on l'a remis évidemment dans notre programme.
Elle n'est pas obligatoire, pourquoi ? Parce que vous ne l'avez pas rendue obligatoire ? Ou votre partenaire ne souhaitait pas ?
Elle ne peut pas être obligatoire parce que c'est la région qui doit rendre les dispositifs obligatoires. Et nous, on ne peut pas être plus contraignant réglementairement que la région. Mais par contre, on l'a mis dans les intentions et dans un guide de bonnes pratiques au niveau de la division des logements. Et c'était négociation du coup avec les investisseurs pour que cette part de logements à prix accessible soit véritablement mis en application. Sous cette législature, plus de 40 logements ont été inscrits dans les permis d'urbanisme pour être des logements essentiellement mis à disposition au niveau de l'agence immobilière sociale.
Éléonore Vandenbogart, du côté du PTB, vous souhaitez-vous 25% de logements publics dans les projets immobiliers ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça freine les projets d'investissement ?
Ça s'est fait dans d'autres villes et ça n'a pas freiné les projets d'investissement. Les investisseurs ont continué à venir dans la ville. C'est vraiment un choix politique que de décider de mettre cette mesure en place. On a vu effectivement qu'il y a eu une politique de logement qui a été mise en place. Pour nous, elle est bien trop frileuse. On doit l'augmenter. Et on doit aussi faire plus de logements publics, c'est-à-dire que pas des logements privés qui passent après par un système comme avec l'agence immobilière sociale, de location, etc., qui est mise à disposition du public, mais bien des logements publics qui appartiennent à la ville et qui donc à long terme continuent à appartenir à la ville, et c'est pérenne comme solution au niveau des logements publics. Et quand on parle de logements publics, c'est pas que des logements sociaux, c'est vraiment à prix abordable, donc y compris pour les jeunes ménages, les familles monoparentales, etc.
Paul-Olivier Delannoy, du côté du PS, on est un peu dans la logique de vouloir mettre 500 logements à loyer modéré pendant la prochaine mandature. Comment y parvenir ?
Tout d'abord, je voudrais quand même faire un tout petit rectificatif sur votre présentation, parce que vous avez dit que le dossier de la rue Saint-Martin devrait être un dossier prioritaire pour la prochaine majorité. Non, la rue Saint-Martin, le permis d'urbanisme est délivré, le financement, il est acquis, donc la rue Saint-Martin se fera, quelles que soient les personnes qui seront autour de la table. Par rapport au logement, en tout cas, on est, au niveau de la majorité, vraiment très lié par rapport justement à ces demandes et ces exigences qu'on met dans des permis d'urbanisme, parce que les 10%, même s'ils ne sont pas nécessairement obligatoires, nous les avons systématiquement assumés. Et donc, tous les chancres qu'il y a en plein centre-ville, et il y en avait quand même quelques-uns, rappelez-vous de l'île au Palace, rappelez-vous aussi de la Dorcas qui est actuellement squattée, qui est actuellement avec toute une série de personnes qui y sont, et qui enfin, c'est un véritable chancre. Ce dossier-là, c'est terminé, le permis d'urbanisme est aussi octroyé. Vous regardez un tout petit peu plus loin, vous arrivez au silo idem, donc tous les gros chancres, notamment par rapport à la PIV, nous avons systématiquement eu un dialogue avec, et c'est ce qu'il faut, parce qu'en fait, quand le PTB veut absolument 25%, je pense qu'on va beaucoup trop loin. Quand le MR, pas le MR tournésien, mais dans certaines villes, on ne veut pas de logements sociaux, à mon avis, on va aussi trop loin. Je répète, pas le MR tournésien, mais par contre, il faut, me semble-t-il, trouver un juste milieu entre le fait d'avoir des investisseurs qui jouent le jeu et le pouvoir politique qui, à un moment donné, impose des règles, chose qu'on a fait ici pendant 6 ans.
Et réhabiliter ces chancres, est-ce que c'est suffisant pour atteindre les 500 logements à loyer modéré sur la législature qui figurent dans votre programme?
Écoutez, c'est déjà 10% de toute une série de logements qu'on veut de toute façon imposer. Regardez tous les éléments que je viens de vous donner par rapport aux chancres. Il y en a déjà 3 du côté de Saint-Pia. Vous avez la Dorca, vous avez les silos. Faites le calcul et faites 10%, vous allez voir qu'on ne sera pas loin.
La Dorca, vous venez d'en parler, c'est un des très gros projets immobiliers surtournés. Ce serait peut-être bien de faire un tour de table pour voir ce que chacun en pense. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir 450, je crois, logements?
250.
Éléonore Van den Bogart, pour ou contre le projet à Dorcas?
Dans le conseil communal, on s'est souvent opposé à toute une série de conditions. Ah, je veux juste dire pour ou contre.
Pour contre, on expliquera après.
Plutôt contre.
Contre?
Pour.
Plutôt contre.
Contre. Benjamin Brodkorn.
J'ai dit pour. Je reviens développer après.
Paul-Olivier Delannoy.
Alors pour, bien évidemment.
Marie-Christine Marguem.
Pour, mais avec certaines conditions.
Quelles seraient, par exemple, ces conditions?
Eh bien, dans l'intégration du bâtiment, il y a quand même un bâtiment ou deux, un bloc ou deux, qui sont beaucoup trop élevés par rapport à l'environnement. Et il y aura certainement aussi des problèmes de mobilité en raison de la forte densité d'occupation du lieu. Mais pour en revenir aux 25% que souhaite le PTB, j'estime que c'est trop et qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans un excès ni dans l'autre. Il faut des logements à loyer modéré. Et je préférerais cette expression à l'expression « logements sociaux ». Et il faut faire des partenariats avec le privé qui est tout à fait en mesure, en compétence, de construire correctement de l'habitat.
Benjamin Brodkorn, la position des engagés par rapport à ces logements.
Les logements, la problématique, enfin plutôt la thématique des logements, elle s'insère vraiment dans un enjeu stratégique pour notre ville qui est sa démographie. Nous savons tous ici que la démographie tunisienne suit une pente descendante, que si rien ne change vers 2035, on passera à 65 000 habitants. Et donc, l'enjeu du logement est stratégique pour notre ville. Alors, par rapport à cela, nous sommes confrontés à des appétits de certains promoteurs immobiliers qui jettent leur dévolu sur certains bâtiments existants en centre-ville, voire certains chancres. Et c'est pour ça que la position des engagés sera nuancée en fonction des projets. Il y a des projets comme celui qui a été évoqué à la Dorca qui nous semble intéressant, positif, malgré effectivement quelques ajustements qu'il faudra espérer voir aboutir quant à la hauteur, au gabarit de certaines
tours. Ça risquerait quand même de poser des problèmes de mobilité, ça a été évoqué,
exactement.
Ce fameux rond-point de la Dorca.
Mais ce que je retiens, c'est qu'à la Dorca, on avait effectivement un chancre, et il est bon que ce chancre puisse disparaître à un jet de pierre du centre-ville. Par contre, il y a aussi des chantiers pour lesquels on nourrit d'importantes craintes. J'entends cette ritournelle, il faut construire la ville sur la ville, mais il ne faudrait pas non plus écraser la ville avec certains chantiers.
Vous pensez
c'est
par exemple
cas, notamment au Récollet, au
couvent des Clarisses. Oui,
tout à fait.
Vous aussi, vous êtes contre le projet tel qu'il est présenté
actuellement. Tout à fait. Donc, ce projet est destructeur d'un environnement qui est à haute valeur patrimoniale. Et c'est comme un éléphant dans une boîte à chaussures. Il y a aussi à l'intérieur donc, de ce bâtiment des éléments mobiliers qui doivent être conservés. Et je ne suis pas persuadée que les promoteurs vont dans ce sens-là. Si vous le permettez, un petit mot sur la rue Saint-Martin, sur laquelle focalise beaucoup le bourgmestre. Elle sera faite de toute façon parce que personne ne peut s'opposer à la réfaction de cette rue qui est dans un état plus que déplorable, vous l'avez souligné. Et donc, peu importe à la limite par quelle majorité, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire qu'effectivement, elle doit être refaite.
Du côté de la majorité, pour le couvent des Clarisses, quelle est votre
Il y a une différence entre le couvent des Clarisses où on est en réflexion et la Dorca où on est vraiment avancé. Et donc, au niveau de la Dorca, je vais simplement rappeler que nous avions aussi, en termes de mobilité, qu'était la Dorca avant. Vous aviez un hôpital avec du personnel, des patients qui venaient, donc on ne part pas de zéro. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ça me crée énormément de problèmes par rapport à tout ce qui s'y passe dedans, avec des débuts d'incendie, avec des squats. Et donc, essayer de trouver une solution avec un investisseur et garder le bon sens et pas nécessairement imposer des choses qui sont irréalisables, parce qu'un investisseur, quand il vient, c'est effectivement aussi pour faire du bénéfice, mais d'un autre côté, on peut aussi lui faire entendre certaines choses.
Coralie Ladavid, une réaction? On vous voit un peu réagir.
Mais donc, je disais plutôt contre, et je ne suis pas la seule à le dire, puisque la commission d'aménagement territoire, donc, où des experts y sont, avait donné un avis défavorable. Donc, je ne suis pas la seule à le dire. Plutôt contre, parce qu'effectivement, il y a une densité beaucoup trop importante, il y a des hauteurs trop importantes, et donc, c'est une question de qualité de logement qu'on offre aux citoyens qui n'est pas rencontré. Les espaces extérieurs aussi. Le logement, ce n'est pas qu'un toit, c'est aussi tous les abords, tous les espaces extérieurs. Aujourd'hui, dans ce projet de la Dorcas, eh bien, ça va être difficile de pouvoir occuper les espaces extérieurs avec des enfants pour pouvoir aller lire un bouquin, pour pouvoir manger aussi quand il fait beau. Eh bien, les habitants de ces immeubles vont avoir des difficultés pour pouvoir faire ce genre de choses parce que les aménagements extérieurs ne sont pas qualitatifs. Et donc, il y a toute une série de choses qui font que nous, effectivement, on est content d'avoir ce chancre qui peut être réhabilité, mais par contre, on aurait voulu être plus exigeant, et notamment aussi sur les logements à loyer modéré. Là, ce n'est pas 10%, mais c'est 5% de logements qui sont consacrés les loyers modérés. Et là aussi, c'est trop peu.
Marie-Christine Marguem, la politique de la ville a été de vendre des bâtiments vétustes pour dégager des moyens d'en rénover d'autres. C'était la bonne chose, selon vous ?
Dans certains cas, oui. Donc, si c'est le CPAS qui vend des bâtiments qu'il ne peut pas entretenir et qui n'ont aucun intérêt patrimonial, il faut évidemment pouvoir décider à un moment donné qu'on n'est pas capable de le faire. Et comme je le disais tout à l'heure, de compter sur ceux qui ont les compétences et l'habitude professionnelle de le faire, donc le privé. Par contre, si ce sont des éléments de patrimoine qui ont vraiment du cachet, comme par exemple l'ancien musée de la porcelaine et le porche de l'hôtel de ville, là, je ne suis pas du tout d'accord et je trouve que la ville devrait pouvoir faire un effort pour garder ces éléments qui sont liés en plus à ces bâtiments communaux pour pouvoir garder un ensemble patrimonial qui est quand même celui de l'ancienne abbaye Saint-Martin.
Éléonore van den Bogaert, au Conseil communal, le PTB a très souvent critiqué cette politique de vente de bâtiments vétustes pour en rénover d'autres. Mais si vous voulez créer de nombreux logements publics, avec quels moyens alors vous le faites ?
C'est vraiment ce qu'on dit, c'est des choix politiques de la ville. Donc la ville a une enveloppe qui, d'accord, est fermée et qui, d'accord, n'est pas exceptionnelle. On le sait dans les communes et avec la majorité qui est maintenant au fédéral et au régional, on ne va pas être aidé vu qu'il y a, entre autres, une diminution de l'indexation des communes. En tout cas, ce n'est pas garanti, etc. Donc c'est sûr que les communes vont avoir de plus en plus de mal financièrement. Il n'empêche qu'on peut faire des choix et que donc certaines dépenses qui ont été faites par la ville qui n'ont pas été mis dans les logements, c'est un choix. Donc revendre ces logements et ne pas les rénover pour les garder dans nos logements publics, ben, c'est un choix politique qui n'a pas été posé et que nous, on veut, dans la prochaine majorité, qu'il soit posé, ce choix.
Benjamin Broadcorn, sur le même sujet.
Je pense que dès lors que la ville de Tournai est à l'occasion en position de faire la leçon à raison à des propriétaires qui n'entretiennent pas leur logement et qui les donnent en location dans des conditions d'insalubrité, je crois qu'effectivement, il est légitime que la ville de Tournai, à un moment, soit elle-même exigeante avec son propre parc immobilier. Il est alors important qu'on puisse, à notre tour, réaliser un véritable audit sanitaire de l'ensemble du parc immobilier de notre commune, parc immobilier qui ne se limite pas à quelques bâtiments de prestige, mais à bien à bon nombre de bâtiments. Pour le reste, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par Marie-Christine par rapport à certains bâtiments qui ont du cachet et qui, dans le cas du porche de l'Hôtel de Ville, avaient en plus un intérêt stratégique par leur proximité avec l'Hôtel de Ville et ses nombreux musées. Je crois que là, on a commis une erreur stratégique en d'abord n'entretenant pas correctement en amont ces biens immobiliers et ensuite en s'en séparant sans possibilité ensuite de pouvoir le valoriser comme il se doit.
Attention, le temps avance, vous êtes plus ou moins à la moitié de vos compteurs. Donc pour terminer la partie logement, dans tous les partis, vous souhaitez renforcer l'agence immobilière sociale. Comment? On vous demande rapidement une proposition chacun. On commence par vous, Paul-Olivier Delanoë.
Je pense en tout cas que le travail a déjà été réalisé sous cette législature-ci. À l'heure actuelle, je pense qu'on s'occupe plus ou moins de 200 logements. Je pense véritablement qu'il faut continuer le travail qui a été réalisé pour pouvoir encore en faire au minimum 200 dans la prochaine législature.
Marie-Christine Marguen.
Il faut réorganiser pour être plus efficace. J'ai l'impression que l'agence immobilière sociale fonctionne bien, mais elle est trop lente. Et cette efficacité, nous l'atteindrons par une meilleure organisation.
Coralie Ladavid.
J'étais présidente, je suis encore présidente de l'AIS et le travail que nous y avons fait est remarquable, vraiment parce qu'on a ressoudé l'équipe, on a une nouvelle direction qui est très dynamique, on a maintenant les charges urbanisme et donc ces créations de logements qui vont vers l'AIS, qui permettent d'étoffer l'AIS et donc l'AIS est sur les rails vraiment pour pouvoir étoffer le nombre de logements pris en gestion.
Benjamin Broadcorn, une proposition pour doper cette agence immobilière sociale?
Il faut davantage faire connaître l'existence et les outils, l'outil que constitue l'AIS, puisque moi-même, dans ma profession d'avocat, je suis régulièrement confronté à des locataires ou des propriétaires de logements qui ne connaissent pas cet outil qui pourtant peut rendre de précieux services à toute une population qui est en recherche de logement.
Et Léonore Vandenbogart, une proposition?
Pour nous, c'est ce qu'on disait, c'est que l'AIS, c'est comme un pansement sur un problème qui est plus profond. Et donc, on ne veut pas... ce qui existe dans l'AIS, on le maintient, bien sûr. Mais on veut surtout ne plus devoir passer par des privés qui mettent en location via l'AIS leur logement, mais bien des logements publics qui appartiennent à la ville.
Voilà, ce qui va clore notre chapitre consacré au logement. Et passons maintenant à la politique de sécurité. Alors Marie-Christine Marguem, l'une des choses qui crée ce sentiment d'insécurité en ville, c'est ce qu'on appelle les incivilités, hein, les dégradations de mobilier, les déchets, etc. Pour lutter contre ce fléau, OMR, vous préconisez de renforcer les sanctions administratives. Qu'est-ce pourrait être cette sanction administrative?
Écoutez, les sanctions administratives, vous en avez déjà au dernier conseil communal pour lutter contre l'ivresse publique. Et le fait donc de se balader avec des canettes fermées et en même temps une canette ouverte va permettre aux sanctionnateurs de prendre la totalité du bagage de l'intéressé, de le lui confisquer pour lui rendre dans 6 mois. Alors, les incivilités, elles sont de tous ordres. Les papiers qui traînent, le fait que vous ayez des gens qui laissent des déchets sur le trottoir, le fait de ne pas entretenir son trottoir. Donc, c'est tout cet environnement-là qui est chaotique et qui crée, avec le reste, un manque d'éclairage à certains moments, des incivilités qui sont beaucoup plus graves.
Mais quelles sanctions envers les personnes qui commettent
ces incivilités ? Ou bien ce sont des sanctions financières, si on voit, évidemment, il faut être au contact de l'auteur. Et pour être au contact de l'auteur, il faut être présent sur l'environnement public, dans l'environnement public. Si vous avez la possibilité de percevoir une amende administrative, vous le faites. Si cela n'est pas possible et que la personne est d'accord, vous proposez alors des travaux d'intérêt général. Et nous avons une batterie de mesures au niveau du mouvement réformateur qui permettront d'aller plus loin quand, par exemple, vous êtes confronté à des gens qui sont victimes d'assuétude. Donc, vous pouvez travailler avec les services sociaux, mais vous pouvez aussi, à un moment donné, et nous voulons y arriver, faire en sorte qu'il y ait une sanction en disant, écoutez, ou bien vous suivez un parcours thérapeutique qui vous permet de vous débarrasser de cette assuétude et d'envisager une autre vie, parce que c'est aussi une ouverture vers une autre vie, et tout va bien, ou alors nous allons devoir, puisque vous représentez un coût social important, nous allons devoir vous contraindre à suivre ce parcours thérapeutique, ce qui est très compliqué. Et dans ces histoires-là, il faut avoir une main très ferme, mais en même temps très subtile. Et pouvoir jouer avec les deux dans cette subtilité.
Paul-Olivier Delannoy, OPS, vous prenez la tolérance zéro pour les incivilités. Vous dites même qu'il faut appliquer des directives strictes, sans larmes, sans matraque. Concrètement, ça veut dire quoi ?
En fait, je voudrais quand même réagir, parce que de toute façon, c'est quasiment la même problématique. Mais le problème actuellement, c'est qu'on ne permet pas aux bourgmestres de pouvoir aller plus loin. Et donc, il y a une batterie législative qui doit se mettre en route. Lorsque Mme Marguin me dit qu'à un moment donné, il y a une incivilité et il faut leur donner une amende, il n'y a, entre guillemets, aucun problème par rapport à une personne qui a un salaire, etc.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, tout à fait. Ouais. Par contre, par rapport à des personnes qui n'en ont pas, et souvent, c'est la population oisive qui crée ce genre de problème, je ne sais pas aller beaucoup plus loin à l'heure actuelle dans le cadre législatif qui sont là. Et donc, effectivement, et là, je rejoins aussi Mme Marguin, il y a des gens qui sont beaucoup trop loin en termes d'assuétude, en termes d'alcool, en termes de drogue, et souvent les deux. Si ces personnes-là, à un moment donné, on ne peut pas arriver, bien évidemment, par une mesure législative, à les obliger à se faire soigner, on va tourner en rond pendant 6 ans et on recommence le même débat dans 6 ans.
Je vois que vous rejoignez souvent Mme Marguin, c'est assez surprenant. Ce n'est pas spécialement ce à quoi on s'attendait, mais bon, voilà, dans votre programme.
Sur tous les sujets, bien évidemment, mais sur le sujet de la sécurité, donnez-moi les moyens et je peux vous garantir qu'il me faut 30 secondes pour réagir.
Et dans votre programme,
je crois que n'importe qui à votre place aurait les mêmes moyens et agirait également dans 30 secondes.
Voilà. Dans votre programme, il y a la création d'une maison pénitentiaire pour les auteurs de petits délits. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça se distingue, cette maison pénitentiaire, d'une prison ?
En fait, le gros problème actuellement, dans les prisons, les personnes qui y sont ne sont pas nécessairement suivies que pour pouvoir sortir. Donc, quand ils sortent, vous avez, et alors, des prisons du 19e siècle avec un personnel qui doit travailler là-dedans, et je peux vous garantir que c'est catastrophique, vous avez des lions en cage qu'on libère ainsi, et c'est véritablement difficile pour eux. Et puis, il y a toute une série d'autres personnes qui, eux, ne franchissent jamais les portes d'une prison. Et donc, vous avez actuellement un sentiment d'impunité. Si ce sentiment d'impunité, vous continuez à le laisser faire, vous allez avoir des révolutions, les gens vont faire justice eux-mêmes. Il faut, me semble-t-il, trouver des structures qui permettent à un moment donné, à ce que les personnes, on les prépare à sortir de prison ou à d'autres personnes qui ont commis des faits, qui puissent y aller. Et à l'heure actuelle, je peux vous garantir que j'ai effectivement déjà des contacts avec le fédéral qui pourrait très bien venir faire ça sur tournée.
Éléonore Vandenbogart, du côté du PTB, est-ce que les incivilités, ça fait partie des priorités ? Est-ce que vous partagez le constat de Mme Marguin et de M. le bourgmestre ?
Alors, on constate qu'il y a le sentiment d'insécurité dans tournée, ça on peut le constater. Par contre, moi, ça me fait sourire d'entendre l'EMR faire son cheval de bataille, la sécurité dans sa campagne, venir nous dire qu'il faut plus de sanctions, etc. Quand c'est l'EMR qui a définancé la justice, quand c'est l'EMR qui a supprimé des postes de police, et puis de venir après nous dire que c'est ça les solutions, alors que c'est eux-mêmes qui les ont définancées au niveau fédéral, ça me fait largement sourire quand même. L'autre chose, c'est que de sous-entendre que les personnes qui ont des assuétudes et qui sont dans la rue, c'est presque un choix d'être dans ces assuétudes et d'être dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas... Je veux dire, c'est tout à fait faux.
Donc, personne leur dire... n'a dit ça. Hein.
Non, je vais parler à Mme Marguin d'où.
Mais je n'ai pas dit ça.
Venir dire qu'on va leur dire que s'ils ne veulent pas se soigner, ils auront des sanctions. Ce n'est pas des gens qui ne veulent pas se soigner, c'est des gens qui ne savent pas se soigner. C'est quand même tout à fait différent. Dans les soins, entre autres assuétudes, il existe une loi qui, effectivement, permet de contraindre les gens aux soins. Ça existe, elle est appliquée. Elle est appliquée régulièrement et probablement qu'elle est appliquée, d'ailleurs, dans la population tournaisienne. Les hôpitaux psychiatriques débordent, sont pleins. On ne sait plus prendre en soin correctement les gens parce qu'on manque de moyens. Et de nouveau, dans la majorité actuelle, on n'a pas décidé de refinancer les soins de santé. Au mieux, on laisse à zéro, alors qu'on a besoin d'un financement de soins de santé. Donc ça, effectivement, ce n'est pas au niveau communal, c'est dans les instances plus hautes. Mais ça a un impact dans nos communes. À partir du moment où on n'investit pas dans les soins de santé, qu'effectivement, on n'avait pas les moyens pour prendre en soin ces personnes qui souffrent d'assuétude dans nos rues et qui, d'une certaine manière, donnent ce sentiment d'insécurité par moment, c'est une arnaque de venir nous dire après qu'on va leur donner des sanctions quand on ne met pas les moyens dans d'autres niveaux de pouvoir.
Mais revenons au niveau
communal. Mais là, je suis d'accord avec vous, par contre, avec le PTB.
Revenons au niveau communal. Alors, quelle serait une de vos solutions ?
Alors, il y a donc la sanction, effectivement. On a besoin de plus de moyens qui ne dépendent pas du pouvoir communal. Et puis, dans la commune, on a toute une série d'associations de terrain qui existent, qui font beaucoup de travail déjà et qui manquent encore de moyens. Et donc, pour nous, la commune doit encore plus venir financer et aider financièrement ces associations. On sait, par exemple, il y a eu des associations qui ont cherché des locaux et qui ont dû aller sonner à toute une série de portes pour avoir un mécénat suffisant pour payer leurs locaux. Voilà, ça, c'est des actions que la commune peut faire. Elle peut mettre à disposition des locaux pour ce genre d'associations. Donc, on veut qu'il y ait beaucoup plus de soutien d'associations de terrain qui vont permettre de faire de la prévention, qui vont permettre d'aider ces gens à sortir de la rue avec des vraies solutions et qui, donc, ces gens traîneront moins dans la rue et diminueront ce sentiment d'insécurité. Donc, on a vraiment besoin de soutenir nos associations de la ville.
Benjamin Brodkorn, un peu tout le monde dans les programmes parle d'une présence plus étoffée en rue pour lutter contre l'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Et dans le programme des engagés, j'ai vu une proposition un peu surprenante, mobiliser des demandeurs d'emploi et des bénévoles et leur confier un rôle de prévention en patrouillant dans les rues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut effectivement mobiliser des gens, des demandeurs d'emploi, des bénévoles pour faire des patrouilles avec la police ?
C'est effectivement une proposition un peu plus originale, mais que voulez-vous, lorsqu'on se trouve confronté à une situation qui n'a jamais pu être solutionnée pendant plusieurs décennies, on est bien obligé de chercher un peu à être créatif. Et donc oui, effectivement, nous espérons pouvoir mobiliser une certaine catégorie de population par non pas suppléer la police, ce n'est pas leur rôle, mais simplement servir d'auxiliaire un peu à la manière de steward urbain. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être évoqué ici dans ce tour de table. Il est évident pour les engagés qu'on n'est pas là pour stigmatiser une population en particulier, mais on n'est pas là non plus pour s'apitoyer sur le sort de certains et considérer qu'il faut tout leur passer. Mmh. Il est évident qu'on doit pouvoir avoir un discours ferme et une action systématique envers peut-être peu de personnes, mais des personnes qui créent un trouble considérable pour nos concitoyens. Et nous devons être fermes et systématiques par rapport à ces comportements. Ce n'est pas stigmatiser des gens en précarité, c'est simplement s'opposer à des comportements qui excèdent un bon nombre de nos concitoyens. Ça ne veut pas dire que dans le même temps, nous ne devons pas également avoir un intérêt porté sur des solutions d'accompagnement. Et à cet égard, il est évident que nous disposons de certaines associations qui font du bon travail de terrain. Nous devons davantage les soutenir et peut-être les aider à se coordonner davantage. Je vois par exemple que nous avons un abri de nuit, que nous avons des associations qui travaillent à l'accueil en journée, mais que peut-être ces deux intervenants ne se coordonnent pas suffisamment pour permettre d'accueillir favorablement ce public compliqué.
Vous avez coulé tout votre temps de parole. Coralie Ladavid, est-ce que vous partagez le constat de Benjamin Brodkorn, notamment avec la proposition de mobiliser des demandeurs d'emploi et des bénévoles ?
En fait, moi je crois qu'il faut resituer le débat. Et ici, on parle surtout de la problématique du sentiment d'insécurité. Et donc, cette problématique, elle doit surtout être être abordée d'une façon globale. Et donc, il n'y a pas une solution simpliste qui va permettre de pouvoir résoudre ce problème. Ça doit pouvoir être fait de façon générale, à la fois sur la prévention. Par exemple, éviter que nos jeunes tombent dans la drogue, sur la répression, donc le trafic de drogue. Effectivement, il faut pouvoir combattre le trafic de drogue. Il faut pouvoir aussi rentrer en dialogue, que les policiers puissent être de proximité pour être en dialogue directement avec les personnes qui sont sur la voie publique. C'est aussi pouvoir accompagner, tout à l'heure on disait les associations, pouvoir renforcer cet accompagnement social en santé, pouvoir aussi améliorer l'accès au logement, pouvoir aussi aménager les espaces publics. Aujourd'hui, on a ce sentiment d'insécurité, et beaucoup chez les femmes, parce qu'on ne se sent pas toujours en sécurité dans l'espace public. Il faut l'aménager, le penser en matière d'éclairage, enfin, toute une série de choses, mais penser qu'il y a une solution simpliste, on va prendre des chômeurs, on va les mettre, et puis comme ça, ils vont pouvoir régler le problème. Non, c'est vraiment toute une solution.
Est-ce que ça peut faire partie du panel de solutions?
Mais il y a déjà les articles 60, par exemple, au CPS, sont des personnes qui n'ont pas de travail et qui sont mis au travail. Il y a toute une série de choses, mais pourquoi pas inciter les chômeurs à pouvoir avoir un emploi? Mais seulement, pourquoi est-ce que ça serait pour ce type de choses-là et pas pour l'accompagnement des personnes âgées, par exemple? Enfin voilà, moi je crois que c'est vraiment réducteur de se dire qu'on base uniquement là-dessus.
Dans vos solutions, il y a quand même une part pour les citoyens. Vous parlez de projets participatifs, de sécurité dans les quartiers. Est-ce que ce sera suffisant pour justement réduire ce sentiment d'insécurité dont on parle?
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une solution qui est globale, qui n'est pas simpliste, et c'est vraiment aussi agir sur les causes et pas uniquement les conséquences.
Dans cette mobilisation de citoyens, dans votre programme, Paul-Olivier Delannoy, on parle des partenariats locaux de prévention. Est-ce que ça peut être une formule pour lutter contre ce sentiment d'insécurité?
Ça l'est déjà pour toute une série de quartiers, mais soyons bien clairs, ce n'est pas suffisant. Et tantôt on a parlé, je suis d'accord, le fait de refinancer la santé par rapport à la santé mentale, etc. Mais il y a un autre domaine où, me semble-t-il, il faut être également refinancé, c'est la justice. Il n'y a pas une semaine où mon commissaire divisionnaire me téléphone pour me dire « Voilà, nous avons arrêté un malfrat, que ce soit en matière de vol, que ce soit en matière de drogue, etc. etc. » etc. Et en fin de journée, qu'est-ce qu'on me dit? Que la personne, on peut la relâcher. Et donc, ça ne va pas. Ce sentiment d'impunité, il faudra systématiquement faire en sorte qu'il n'y soit plus.
Marie-Christine Margam, une dernière réaction.
3 secondes.
Une dernière réaction, Marie-Christine Margam, pour cette thématique.
J'ai fait quantité d'interventions au Parlement fédéral pour renforcer les moyens de la police et de la justice. Je rejoins ce qui est dit. Les incivilités, c'est un problème, mais il y a aussi les agressions. Il y a tout ce qui concerne l'intégrité physique, le fait qu'il y ait à certains moments dans notre ville des meurtres, des agressions graves, l'émergence de petits gangs. Et je crois que là, il faut vraiment renforcer les moyens humains et financiers de la police et faire en sorte, comme je le vois depuis quelques jours, monsieur le bourgmestre, d'avoir énormément de passages de policiers en rue. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un événement dans quelques jours qui fait que depuis une dizaine de jours, je me balade beaucoup en ville, je vois énormément de policiers en rue qui sont en train de rassurer par leur présence. Ça fait des années qu'on vous le demande et vous l'avez enfin fait. Ce qui est dommage, c'est que vous l'ayez fait si tard que cela.
Il y a quand même un élément.
Mais vous n'avez plus de temps de parole.
C'est faux.
Mais il ne nous reste que quelques secondes. Donc, dans de nombreux programmes, on réclame plus de caméras en ville. Donc, on va simplement demander par oui ou par non. Quelle est votre position, Coralie Ladavid?
Plutôt non.
Paul-Olivier Delannoy?
Bien évidemment. Mais les policiers, pour l'instant, on n'en trouve plus.
Marie-Christine Margam?
Oui, et je crois que si on attirait les policiers dans ce métier, on en trouverait.
Benjamin Brodkorn?
Un grand oui.
Éléonore de Boga?
Non, et comme il me reste 45 secondes, je peux développer un peu plus, du coup.
Très rapidement.
Pourquoi pas plus de caméras en ville?
Pas plus de caméras, parce que ça demande beaucoup de moyens d'installation, d'entretien. Il faut du monde pour regarder les images, etc. Pour nous, c'est des moyens que, de nouveau, on peut mettre auprès de nos associations. Et puis, il y a des recherches qui ont été faites sur les études, particulièrement en Angleterre, où ils ont plus de recul que nous là-dessus. Ça a un impact sur le vol à la tire et sur les vols de voitures. Ça n'a pas d'impact sur les agressions physiques, sur les meurtres, etc. Ça n'a pas d'impact. Donc, c'est mettre de l'argent et des milliers d'euros dans quelque chose qui a été démontré comme inefficace préventivement dans d'autres pays. Et le mettre chez nous, dans notre ville, n'aura pas un impact différent que dans d'autres villes où ça n'a pas démontré d'efficacité.
Les caméras ont quand même aidé à résoudre le crime qui s'est passé sur Tournai.
Mais donc, ce n'est pas préventif. Donc, ça ne sert pas en prévention des caméras.
Quelques secondes. Mais donc, non aux caméras, ou plutôt non?
Plutôt non, parce que, alors, on n'est pas contre les caméras, mais seulement il y en a déjà à Tournai. Et plutôt que de mettre des personnes derrière les caméras, on préfère avoir de la police de proximité en ville qui soit directement en dialogue avec les personnes.
On a les budgets, on ne trouve pas les policiers pour venir.
Ben voilà qui va clore la première partie de notre débat. Après une courte pause, nous nous retrouverons avec d'autres candidats pour parler de tournée du centre-ville et surtout des 29 villages.
Nous sommes de retour dans votre débat tournésien. Trois jours du vote, les candidats débattent autour de différents thèmes. Et maintenant, place à la ruralité. Et pour lancer les échanges, nous sommes partis à la rencontre des habitants d'Aire, Épluchin, Froidmont et Wilmot avec deux questions. Se sentent-ils tournésiens et est-ce qu'ils se sentent délaissés par rapport au centre-ville? Leurs réponses, les voici, regardez.
Oui, malgré tout, oui. Mais pas pour tout. Il manque beaucoup de choses.
Je trouve quand même que les villages sont oubliés par rapport à la ville. Que ce soit un petit peu dans tous les domaines. Je pense que, enfin, ici, comme ça va être la période de l'hiver, par exemple au niveau des sablages.
On est un peu mis sur le côté, hein, parce que les pistes cyclables, moi j'ai fait une chute, et c'est pas évident, elles ne sont pas nettoyées, rien du tout.
Écoutez, non, on a tout ce qu'il faut ici, on a la maison maintenant là, du village, on est très bien. Non, de ce côté-là, je pense qu'on n'est pas... On n'est pas démunis par rapport aux autres, on n'est pas désavantagés.
Au niveau en tout cas des travaux d'entretien du village, je trouve qu'on est un petit peu délaissé.
Je pense qu'on est un peu lésé par rapport au nettoyage des voiries, des égouttoirs, parce que vous pouvez voir ici devant, il n'y a rien qui est fait. Si on ne nettoie pas son filet d'eau, ben voilà, ça reste à l'état où il est.
Delphine Delaunoy, bonsoir. Vous êtes candidate pour les engagés. On vient de l'entendre, le constat est plus que mitigé par rapport au ressenti des citoyens. Et chez vous, chez les engagés, on propose un échevin de la ruralité, un échevin des villages pour solutionner le problème. Ça consistera en quoi? Quelles seraient ses compétences?
Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que Tournai, quand même, est une commune la plus étendue de la Belgique. Donc, c'est vrai que 29 villages, c'est énorme. Et donc, c'est vrai que face à ce défi d'être là pour les villageois, pour les... plus ou moins, je pense, 800 km aussi de voiries, de rues à nettoyer, à entretenir, d'espaces publics à sécuriser. C'est vraiment, je veux dire, un défi. C'est une tâche vraiment énorme. Donc nous, pour mettre en place, pour répondre aux citoyens, parce qu'on l'a entendu ici, que les citoyens, pas mal, sont des délaissés. Nous, on l'a vécu aussi, notamment encore dans cette campagne, quand on est allé dans les beaux villages avec les belles animations, les beaux événements, comment ils étaient délaissés. Nous, les Jevins, des villages, ce serait vraiment la personne de contact et de proximité avec le villageois. Parce qu'il manque de proximité. Souvent, on nous dit, quand on a quelque chose à demander, une préoccupation à demander à la commune, on n'est pas entendu, on est oublié. Donc cet échevin, il servirait d'être vraiment là pour la proximité. Et comme on a 4 districts, puisque les 29 villages sont répartis en 4 districts, il pourrait faire des permanences plusieurs fois par an dans les districts pour aller vraiment au quotidien avec les villageois pour avoir les préoccupations des villageois et revenir après vers des personnes compétentes au niveau du collège qui pourraient répondre aux demandes.
Alors Laurent Agache, je me tourne vers vous. Il y a un côté un peu amusant avec cette proposition des chemins des villages parce que vous, chez Écolo, vous proposez de réunir le commerce, le tourisme et l'événementiel et de faire un échevin du centre-ville. Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner avec un échevin des villes et un échevin des champs?
Non, c'est un échevinat de l'attractivité, ce qui est quand même tout à fait différent. Et non, nous, au contraire, on veut travailler en transversalité. C'est ce qu'on a fait pendant les 6 ans. Et cette idée, d'ailleurs, il y a eu un certain lapsus, puisque vous avez parlé de échevinat de la ruralité. Ça existe, on a déjà un échevinat de la ruralité. J'entends bien les préoccupations. Et donc, nous pensons qu'il faut davantage travailler sur les districts, en fait. Et que, on l'a bien entendu, hein, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, tiens, on n'a pas entretenu devant chez moi. Donc, clairement, je pense qu'on peut partir des ressources humaines que nous avons, du matériel que nous avons, peut-être l'allouer de manière plus efficiente au sein des districts. Et je pense que ça répondra plus aux demandes des citoyens qu'une initiative politique d'un échevin.
Vincent Lucas, plutôt échevin de l'attractivité du centre-ville ou échevin des villages?
Ben, moi, je pense surtout qu'il y a un problème beaucoup plus profond. C'est au moment de la fusion des communes, il y a presque 50 ans, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour justement former une unité entre la ville et ses villages. Un exemple, je ne comprends pas pourquoi ils ont supprimé donc les districts, hein, districts qui pour moi étaient très bonnes choses, notamment pour les travaux. Ces districts étaient occupés avec des gens du terrain qui connaissaient bien les régions, hein, Gorin, Froidmont, Templeuve, Quin. Bien sûr, il fallait leur donner le bon matériel pour valoriser ces gens-là, hein, ces ouvriers. Et c'est un peu dommage d'avoir supprimé ces districts.
Ludivine de Londeur, ces clivages entre les villages et le centre-ville, est-ce que vous le ressentez quand vous êtes sur le terrain pendant la campagne? Est-ce qu'on doit solutionner cela?
Je pense que nous évoluons malheureusement dans une société où d'aucuns cherchent à opposer les uns aux autres. Et cette opposition, là encore, cette compétition entre ville et village n'a pas lieu d'être. Tournai, c'est un ensemble, son centre-ville et ses 29 villages. Ce ne sont pas des entités distinctes, mais bien des entités complémentaires qui ont une vocation différente, qui ont une vocation propre et qui doivent avoir toute notre attention. Alors, il faut aussi bien avouer, si on veut être de bon ton, que les investissements qui sont réalisés en ville profitent aux habitants des villages. Quand on investit dans l'entretien, l'aménagement des voiries qui sont fort usitées, quand on investit en matière patrimoniale, culturelle, sportive et de loisirs, ça profite aussi aux habitants des villages. Mais quand on choisit d'aller s'installer à la campagne, on recherche certainement ce côté paisible et aussi ce côté convivial. Et chaque habitant d'un village a le droit d'avoir effectivement des routes qui soient entretenues, qui soient propres, des services de base à proximité et des espaces de détente en famille. Et c'est ce que nous avons fait durant cette législature. Que ce soit avec des investissements de grande ampleur, et vous l'avez cité tout à l'heure, le Mont-Saint-Aubert, Rumilly, on peut encore parler du moulin de Timougy, etc. Mais que ce soit aussi avec de l'entretien de voirie, avec des travaux dans nos écoles rurales et l'installation de toute une série de plaines de jeux à Warchin, à Orques, à Aire et demain encore à Blandin. Demain, ce que l'on souhaite, c'est évidemment d'avoir un plan rigoureux pour le nettoyage des avaloirs, pour l'entretien des routes et également pour le curage des fossés. Ça veut dire avec un calendrier précis que l'on pourra tenir à l'œil et qui sera transparent. Et la deuxième chose, je pense, pour terminer, ce sont des centres polyvalents de proximité que nous voulons mettre en place dans les districts où on retrouvera et l'administratif, et les loisirs, et le culturel, et les soins de santé regroupés en un lieu pour que les habitants des villages aient tout à proximité aussi, pour ne pas devoir systématiquement aller en ville.
Ludivine de Nander parlait de la complémentarité entre les différents pôles de l'entité. Vincent Lucas, OMR, on propose de lancer un taxi social pour améliorer les connexions, les liaisons entre la ville et les villages. Pour vous, c'est vraiment la solution qu'il faudrait, un taxi social ?
C'est une solution, mais malheureusement qui est assez chère. Hein. Je pense aussi qu'il y a moyen d'avoir des contacts beaucoup plus précis avec, par exemple, le service tech, parce qu'il est vrai qu'il y a des villages où il n'y a vraiment plus de liaison de bus le week-end, par exemple. Et ça, c'est quand même un problème. Les jeunes qui sont livrés à eux-mêmes pour venir à Tournai, ce n'est pas normal, des villages sans bus.
Revenons à cette proposition de taxi social. Ça consisterait en quoi, de manière plus concrète?
Ben, le taxi social, c'est quelque chose qui partirait de Tournai, qui pour venir à la demande, à mon avis, pour prendre en charge. Oui, mais pas pour les villages.
Si, ça existe. Je l'ai lancé à l'époque, quand j'étais présidente de l'ALE, à destination des jeunes, à destination d'un public en recherche d'emploi ou en formation et à destination des personnes âgées.
Mickaël Dugoquet, du côté du PTB, comment on veut justement lier les villages au centre-ville de Tournai?
Bah vraiment, oui, si c'est pour les lier au niveau du transport, c'est tout mettre dans le transport en commun. Hein. La plupart des gens demandent ça, notamment les gens qui viennent d'être pensionnés, qui disent « nous, maintenant, on a plus de temps, on aimerait bien lâcher la voiture ». Malheureusement, bah, il manque d'arrêt, il manque de passage aussi. Il y a des endroits où il n'y a que 4 bus qui passent sur une journée, c'est pas possible. Donc c'est vraiment...
Ça, c'est moins au niveau communal que ça se décide.
Comment ?
C'est moins au niveau communal que ça se décide.
Bah, il y a des moyens au niveau de communal de pousser au niveau des transports en commun. Hein. Comme on voit à Dunkerque, ils ont réussi à faire des transports gratuits. C'est pas là au niveau de la France, enfin pas au niveau du pays, ça s'est fait au niveau de la commune. Donc je suppose qu'on doit savoir le faire aussi à Tournai.
Ludivine de Londeur, dans les propositions, c'est aussi des parkings de délestage qui pourraient peut-être justement aider à avoir des personnes qui se garent sur ces parkings, prendre plus de transports en commun pour rejoindre la ville.
Oui, d'accord, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Quand vous parlez des textes, ça dépend de la région wallonne. La commune n'a absolument rien à dire. Et nous n'avons pu que constater tristement le fait que les TEC avaient supprimé, vous avez raison, toute une série de lignes qui desservaient la ville au départ des villages. Et qu'est-ce que la commune a à dire ? Absolument rien. Et donc là, je lance peut-être un appel au gouvernement wallon actuel, MR engagé, au lieu peut-être de toujours reporter la charge vers les communes, c'est de se dire d'inviter le TEC fermement à arrêter de supprimer ces lignes et au contraire à donner plus de moyens pour permettre davantage de mobilité.
Ne faisons pas ici le débat régional, restons dans la commune. On a eu récemment une étude de Greenpeace qui pointait le manque d'espace vert dans les communes de Belgique et Tournai n'était pas la pire, mais n'était pas super bien classée. Je vois que le programme du PS veut que chaque habitant ait un jardin public à 10 minutes de chez lui. Où voyez-vous des jardins supplémentaires à Tournai ? Il y en a déjà beaucoup, en fait.
Je pense qu'il y a beaucoup d'espaces verts, en effet. Mais quand on parle aussi de ruralité, ce sont des espaces, comme je le disais tout à l'heure, de détente en famille, où l'on peut très facilement, et regarder à Vaux, ça a été créé, sur des espaces existants, mais on en a fait des espaces de convivialité.
Laurent Gache, ça pourrait passer ce type de projet avec les budgets participatifs. On sait que c'est important du côté d'écolo, qu'il faudrait les voir être mis à la hausse. Est-ce que c'est le type de projet qui pourrait être soutenu ?
Bien sûr, puisqu'il y a eu pas mal de plaines de jeux qui ont été réalisées via ce mécanisme, qui a connu beaucoup de succès, qui est à renforcer dans les villages de plus grande importance, parce que dans ces villages-là, on a constaté qu'on n'a pas réussi à mettre sur pied des comités de village qui sont porteurs de ce type de projet. Donc là, je crois qu'il y a un focus sur les villages importants pour ce mécanisme-là. Et d'autre part, quand j'entends aussi la verdurisation, évidemment, chez nous, c'est un élément capital et nous sommes porteurs de ça, que ce soit dans la ville ou dans les villages, bien évidemment.
Quel type d'aménagement n'aurait-il pas pu être fait s'il n'y avait pas eu de budget participatif pendant cette législature ?
Je pense à certains aménagements sur des places, notamment à la main, par exemple. Disons que l'intérêt, c'est évidemment les gens se regroupent, les gens décident ensemble. Et cette mécanique-là a été reproduite au sein du futur PCDR, Plan communal de développement rural, où là, 14 zones intergénérationnelles seront installées, donc des zones qui regrouperont des plaines de jeux, des espaces, des modules sportifs, et aussi, par exemple, des tables avec des échiquiers pour permettre à toutes les générations de se rencontrer et de renforcer le lien social dans les villages.
Delphine Delaunoy, les budgets participatifs, c'est une bonne formule pour les engager ?
Ben oui, je pense que plus on donne du budget participatif avec, bien sûr, aussi des conseils participatifs qui permettent aux villageois, parce que qui mieux qu'un villageois peut dire dans son groupe, dans sa communauté de village, ça ne va pas, je vais reporter des infos pour que ça aille mieux et trouver des solutions entre eux. Il faut aussi du budget pour après proposer à notre région des villages de pouvoir porter le projet du conseil participatif.
Vous souhaitez aussi aménager, Madame de Donder l'a évoqué tout à l'heure, des espaces multiservices dans les villages.
Tout à fait, que permettre vraiment de la proximité pour que le citoyen ait vraiment une possibilité d'avoir une réponse à sa question. Parce que c'est ce qu'on entend souvent, c'est de la part de la commune, on n'a pas assez de réponses, ça traîne, on ne sait pas qui contacter. Alors tout le monde n'a pas les moyens non plus de savoir utiliser Internet ou le numérique. Et là, c'est vraiment aussi un problème. Donc c'est vrai que c'est des services de proximité, en présentiel, en humain, ce serait quand même beaucoup mieux. Et alors je voulais revenir sur la mobilité aussi, parce que moi je travaille dans l'insertion socio-professionnelle et c'est dramatique ces histoires de transport. C'est pour ça qu'on a pensé à un pass multimodal chez nous. Oui, mais c'est dramatique de voir que des demandeurs d'emploi ne peuvent pas accepter d'emploi parce qu'ils doivent aller travailler à des postes dans la zone industrielle de Orc-Marquin, Blandin, parce qu'ils doivent aller au centre commercial pour un travail et c'est impossible actuellement pour certaines personnes qui n'ont pas de...
On va revenir à un débat sur les bus.
Oui, mais il y a les bus, mais il y a aussi une série, peut-être des navettes, peut-être le taxi. On m'a dit hier, un jeune m'a dit, à Mons, on lève la main, on a un taxi. Alors, faudra voir comment on pourrait trouver des solutions en partenariat, je ne sais pas. Mais je me dis, il y a peut-être possibilité de penser à d'autres aussi moyens qu'uniquement les bus.
Michael Ducoquet, à travers les différentes propositions qui ont été faites, est-ce qu'il y en a une qui est la plus intéressante pour le PTB ?
Oui, nous on aimerait bien justement, on parlait de proximité, savoir de la proximité, d'avoir des maisons de village, de quartier dans chaque village. Comme il y a un monsieur qui l'a dit tantôt, c'est quelque chose qui rassemble les gens. Et on peut même développer, savoir la proximité au niveau administratif pour pouvoir aider un petit peu les gens directement sur place, laisser une place pour tout.
Qu'est-ce qu'il y aurait dans ces maisons de village? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est un commerce, c'est de l'administration, c'est un peu de tout
Oui, de l'aide surtout administrative, notamment pour les papiers, pour avoir du Wi-Fi gratuit, avoir une place pour tout ce qui est association, les comités de quartier qui cherchent souvent aussi des endroits pour pouvoir parler, pour pouvoir s'organiser et notamment pouvoir faire monter des informations au niveau du conseil communal aussi ou du collège.
Vincent Lucas, on termine ce tour de table par rapport à tout ce qui est budget participatif. Est-ce que c'est une manière aussi d'améliorer le tourisme rural via ces budgets participatifs?
Oui, je pense. Maintenant, il faut que ce soit encore une fois bien pensé. Quand vous parlez de plaines de jeu, on a l'impression dans certains villages que on a contenté les gens, on a placé quelques jeux avec quelques copeaux. Je ne suis pas sûr que ça tiendra dans le temps. J'ai l'impression que c'était fait beaucoup plus pour contenter un petit comité de quartier.
Qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez au pouvoir?
Il faudrait peut-être penser un peu mieux tous ces aménagements et qu'ils soient beaucoup plus durables que ce qu'on peut voir comme à Warchin, par exemple, et à Vaux.
Via des budgets participatifs, comme ça a été proposé pendant cette mandature-ci?
Oui.
Vous avez aussi évoqué dans votre programme le tourisme rural, en citant Timougy, Froyenne, Mont-Saint-Aubert. Quelles mesures précises vous voudriez développer pour doper le tourisme rural à Tournai?
Le tourisme rural, en fait, déjà aussi, avoir à Tournai quelque chose de mieux au niveau de l'information, parce que je vois que malheureusement le touriste qui arrive sur Tournai est très mal informé de tout ce qu'il y a sur la région. Et alors aussi un hôtel pour les loger ces touristes, parce que là j'attends depuis des années et j'entends dire que Rue Royale il y aura un hôtel, oui, mais on ne voit rien arriver, hein.
Ça c'est du a priori plutôt une question d'investisseurs privés plutôt que de
pouvoir. Oui, mais alors on ne fait pas fuir l'investisseur privé quand il vient avec un paquet d'argent pour le faire.
Laurent Gache, une réaction.
Oui, parce que là j'ai l'impression qu'on prend le problème à l'envers. Pour un hôtel, il faut faire une étude de marché. Si l'hôtel ne s'installe pas, c'est parce que le marché n'est pas porteur vers ça.
Non.
Moi je crois plutôt qu'en termes de tourisme rural, c'est justement amener nos concitoyens, voire nos agriculteurs, à s'insérer dans du tourisme, par exemple de l'hébergement à la ferme, ou de comme on peut trouver en Italie avec les agritourismes. Je crois vraiment qu'ici, on a un potentiel extraordinaire, parce qu'on a une très belle campagne. J'ai des amis qui viennent visiter parfois de Liège et d'autres pays, qui viennent et qui disent « c'est quand même génial la Wallonie-Picarde ». Donc je crois que là, on a un vrai potentiel qu'on peut développer. Et je pense plutôt à de l'hébergement rural qu'à un hôtel en centre-ville.
Oui, il y a le tourisme rural, il y a aussi les musées. Il y en a beaucoup à Tournai, peut-être de trop. C'est la question de nos confrères de l'avenir.
Tournai a un patrimoine exceptionnel qu'on peut admirer notamment dans les musées. On sait que cette année, les dernières années, plusieurs musées ont fermé leurs portes. Pensez-vous que Tournai doit se donner les moyens de gérer et d'entretenir autant de musées?
Alors pour répondre à la question, on va faire un petit tour de table. Michaël Dugoquier, est-ce qu'il y a trop de musées à Tournai?
Non, je ne crois pas. À partir du moment où c'est accessible à tous.
Delphine Delenoy pour les engager.
Pas trop de musées, mais revoir.
Vincent Lucas.
Pour moi, il faudrait recentraliser certainement le musée de l'art, le musée de militaire et alors le musée de l'archéologie. Recentrer ces trois-là pour mettre en valeur les collections.
En faire un seul avec les trois?
Oui, ces trois-là, déjà. Ce serait un bon début.
Ludivine Nolander.
Mieux mettre en valeur nos collections, favoriser l'attractivité, renforcer le nombre de visiteurs et participer aussi à réaliser des économies d'échelle avec pour nous un espace de contemplation et d'animation de l'histoire de Tournai qui serait un premier pas vers la création d'un grand musée.
Laurent Gache.
Nous sommes aussi favorables à certains groupements.
comme c'était évoqué, le musée d'archéologie, le musée d'histoire militaire et aussi des réserves liées à l'histoire médiévale qui, pour l'instant, est quand même peu mise en valeur alors que c'est quand même un âge d'or de la cité. Nous rejoignons aussi effectivement une politique muséale qui doit être... Voilà, on fait partie, qu'on le veuille ou non, mais les musées, c'est quelque part, c'est aussi un marché, hein. Vous prenez 100 km autour de chez nous, on a des musées incroyables. Donc, si on veut attirer le visiteur, on doit avoir une démarche beaucoup plus proactive. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut accorder plus d'autonomie au personnel de nos musées et à nos conservateurs, parce que je pense qu'eux savent comment il faut faire.
Michel Dugocquier, est-ce qu'une ville comme Tournai a les moyens d'avoir autant de musées?
Oui, pour moi, oui. Encore une fois, c'est, comme on a dit tantôt, c'est des choix politiques. Donc, à partir du moment où on veut développer ça ou même financer des musées, oui, maintenant, il faut les rendre encore de nouveau attractifs. Je ne sais pas, notamment pour les jeunes, est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par les musées? Ça serait à savoir. À part
l'idée
le musée de l'histoire naturelle qui, je crois, apporte, oui. C'est là qui apporte le plus de monde.
Et l'idée d'en regrouper plusieurs relatives à l'histoire de la ville, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant à suivre?
Ce serait intéressant, surtout, je suppose, si on arrive à regrouper ça dans un seul bâtiment, ça reviendrait aussi moins cher à l'entretien, ça. Donc oui, c'est tout à fait possible.
Vous parlez d'attirer les jeunes, justement. Dans les musées, comment une ville peut attirer ses jeunes à venir visiter ses musées?
Je crois qu'il faut d'abord écouter les jeunes, quel est le point d'intérêt des jeunes avant de vouloir les faire venir. Donc, surtout maintenant, on parle surtout des beaux-arts, tout ça, c'est peut-être un peu vieillot. Maintenant, tout ce qui est street art, ça intéresse, je crois, beaucoup plus les jeunes. Et ça, Tournai, il n'y a pas grand-chose.
Laurent Agage, dans votre programme, vous favorisez les pôles culturels et artistiques pour les citoyens. Ça consiste en quoi?
D'abord, il faut savoir que nos musées, on connaît un très grand succès auprès des étudiants et des élèves. Il faut quand même savoir qu'on a un service pédagogique de très grande qualité qui accueille plus de 22 000 élèves chaque année. Donc c'est une porte ouverte vers les musées. Et par rapport à ça, on a aussi une concentration d'écoles d'art quand même très forte à Tournai. On a Saint-Luc, on a l'Académie des Beaux-Arts. Et nous trouvons qu'une synergie entre les musées et ces pôles artistiques sont très importants. Ça dynamisera l'art dans notre ville, quoi.
Vincent Lucas, quand on parle de tourisme, il y a pas mal de choses que Tournai peut offrir à ses visiteurs, mais quand on les entend, parfois ils se plaignent aussi du manque de commerce, parce qu'ils aiment bien aussi flâner en ville et éventuellement faire des courses. Vous préconisez de ramener des locomotives commerciales en centre-ville. Comment faire pour concrétiser ça?
Comment faire? Il faut d'abord de l'attractivité et alors de la sécurité. Avant, on revient toujours au problème de la sécurité. Pour ramener du commerce en ville, il faut que la ville soit attractive pour le client. Je suis désolé, mais quand on voit ce qui se passe à Tournai pour l'instant, le samedi après-midi, c'est quand même inquiétant.
Qu'est-ce qui se passe le samedi après-midi à Tournai?
Vous savez tout ce qu'on m'a. On revient sur le même problème des personnes alcoolisées sur la voie publique et compagnie. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que certains partis vont m'en vouloir. Mais d'abord, remettre en place toute une série de carcans qui vont faire que cette ville soit plus sécurisée. Et nettoyée aussi, propre. Quoi.
Mais en termes de propositions pour les commerces, comment les attirer? Mis à part les problèmes de sécurité, de propreté que vous évoquez, mais en termes de politique, si vous êtes au pouvoir, comment vous attirez ces commerces? Avec des avantages?
Essayez aussi de régler un peu le problème de parking. Je n'ai pas dit qu'il fallait donner le parking payant parce que ça ne va pas arranger les histoires. Et je vous dis, il faut faut faire revenir les gens en ville. Il faut faire revenir les familles aussi en ville, avec des enfants. Parce que pour l'instant, c'est le désert. Ça devient désert, franchement. J'ai fait mes courses samedi dans la rue, dans la rue de l'Isère. Mais écoutez, quand Écolo dit qu'il y a autant de cellules vides, je pense que c'est 16 cellules qui ont en moins de vide en moins. Écoutez, je ne sais pas, mais. Les statistiques, mais chapeau.
C'est rationnel.
C'est un beau bilan quand même.
Votre temps de parole est écoulé. Ludivine de Dondeur, est-ce qu'attirer des grandes enseignes à Tournai, ça pourrait être une solution, comme Mons avec Primark notamment?
Mais il ne suffit pas de faire des constats, évidemment. Ouais. Il faut faire des propositions. Et donc, c'est comme pour l'hôtel. Les grandes enseignes, elles font des études de marché. Il faut suffisamment de flux passants. Ce que l'on a créé à l'époque, quand j'ai été échevine du commerce, c'est des aides à l'installation et des aides au loyer à partir du moment où on s'est installé dans un périmètre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 650 commerces en centre-ville, mais ils sont éparpillés. Et donc, on a l'impression, effectivement, qu'il y a beaucoup de cellules vides. Pourtant, les commerces sont là et ça ne favorise pas le flux passant. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir refaire un linéaire commercial, regroupé dans un périmètre.
Et évidemment, imposer des commerces, comment on peut...
Alors, on n'impose pas, si on veut avoir une aide à l'installation et une aide au loyer, il faut s'installer dans ce périmètre-là. Ce n'est pas une imposition, je dirais que c'est une incitation.
Michael Hugot, qui est du côté du PTB, vous êtes contre les grosses enseignes, vous voulez taxer quand c'est plus de 400 mètres carrés. Est-ce que vous n'avez pas peur justement d'attirer certains investisseurs ?
Ben non, en fait, un frein au développement du commerce, c'est le parking payant. Donc tant qu'on laisse le parking payant, je crois qu'on pourra faire ce qu'on veut, il n'y aura pas plus de commerce.
Du parking payant, il y en a dans toutes les villes, y compris...
Bah, mais comme j'entendais aussi, j'ai entendu, je crois que c'était une proposition du PS qui proposait d'avoir des parkings gratuits aux 5 minutes des commerces. Vu qu'il y a des commerces un peu partout en ville, le parking va devenir gratuit en ville. Donc, pour moi, c'est un gros frein. Quand on parle avec les gens, quand on parle avec le commerçant, ben, les gens ne viennent pas parce qu'ils doivent payer. Quand on demande aux commerçants pourquoi ils s'en vont, ben, parce qu'il n'y a plus de
mais
de
quand, passants, ils, vont, plus quand de... ils vont à Lille, ils doivent également payer cher dans des parkings souterrains.
Ouais, mais bon, ici, ils vont à l'Aubastion, à Froyenne, plutôt que de payer pour aller en ville.
Non, je ne suis pas sûr.
Des villes de Lenoir ?
C'est une grande problématique et un grand sujet. Nous, on pense, chez les engagés, que Tournai doit être la ville à visiter, incontournable. Pour qu'elle soit, qu'elle donne envie d'être visitée, évidemment, il y a les commerces, il y a l'ORECA, il y a le patrimoine, les musées. Pour revenir sur les musées, puisque c'est la thématique, ouais. Nous, on pense aussi qu'il y a un musée, ici, un grand absent. C'est le musée, justement, de l'histoire de Tournai, où on pourrait centraliser, donc on peut garder les musées comme ils sont actuellement, mais si on veut rechercher vraiment l'histoire de Tournai, on doit aller dans différents musées pour trouver des infos, alors que même le citoyen lui-même, tous ne connaît pas l'histoire de Tournai, pourrait aller dans un lieu unique, dans un même lieu où il a vraiment toute l'histoire de Tournai qui est valorisée, avec différentes informations des autres musées, différents, et même pour le touriste. Donc il y a ça, le commerce, on a la SBL Centre-Ville qui travaille vraiment bien sur les commerces et la thématique, avec une personne qui est une experte qui travaille depuis 25 ans. Je pense aussi que pour travailler tout ce côté commerce de Tournai, centre-ville, ben c'est vraiment aussi entendre son expertise et travailler en collaboration, en meilleure collaboration avec déjà des acteurs de terrain qui sont là depuis longtemps et qui ont des choses à dire, et notamment ben, les loyers, à continuer à aider les nouveaux commerçants pour une aide au niveau des loyers pour se lancer. Ben voilà, il y a plein de choses à faire et qu'on espère pouvoir faire et mettre en place.
Laurent Agache, chez Écolo, on veut plus de concentration de surface commerciale. Comment imposer cela ?
Comment ?
Vous voulez plus de concentration des surfaces commerciales. Comment vous voulez imposer ça ?
Bah, imposer, on ne peut pas. Oui. C'est pas imposer. On n'impose pas dans ces cas. Non, le but, c'est effectivement, comme c'était évoqué, d'éviter la dispersion commerciale. Et en plus, pour rebondir, nous pensons qu'effectivement, le potentiel de clientèle pour le centre-ville, c'est beaucoup le tourisme. Mmh. Et donc, pour que le touriste ne doive pas non plus faire 3 km pour découvrir l'offre commerciale, on essaye aussi de concentrer. Et en même temps, ça donne moins cette impression d'avoir des cellules vides, alors qu'on peut concentrer et de donner un dynamisme global à l'offre commerciale.
Ludivine de Donder, il vous reste 18 secondes. Est-ce que vous avez une idée pour parler du commerce.
Peut-être parce que tout à l'heure, on parlait de tourisme rural et que je n'ai pas nécessairement pu intervenir là-dessus. Et qu'on parle de commerce, parlons des producteurs locaux. Nous avons énormément de producteurs locaux. Nous avons favorisé le circuit court et nous avons développé toute une série de balades touristiques à vélo, de randonnées également dans la nature, mais aussi de circuits découvertes des producteurs locaux. Et pour moi, il faut vraiment aussi avoir des commerces de proximité.
Les quelques secondes qui restaient sont...
Michael Hugot, c'est une solution que vous pourriez soutenir avec le PTB ?
Oui, tout à fait. Oui. Il faut justement faire vivre notamment les agriculteurs, le circuit court, tout ça. Bah oui, on est tout à fait pour.
On peut donc favoriser à la fois le développement des champs et de la ville, comme on disait tout à l'heure. Quoi.
Bah, c'est l'idéal, en plus, oui, tout à fait l'idéal.
Ok, bah, nous arrivons au terme de ce débat sur Tournai. Pas tout à fait au terme, puisqu'il y a encore le débat des jeunes que nous aurons... le plaisir d'accueillir après une petite pause. Nous accueillons maintenant les jeunes candidats et soulignons-le, les cinq partis ont joué le jeu. Il s'agit vraiment de jeunes candidats.
Et chacun d'entre eux aura 1 minute 30 pour défendre une idée pour la jeunesse selon leur parti. On commence avec vous, Blandine Motte. Quelle est la Bonjour. Proposition du PS pour la jeunesse?
Alors déjà, j'aimerais souligner que nous avons la chance en tant que jeunes de vivre dans une super commune. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place pour la jeunesse. Maintenant, je ne vais pas être très innovatrice, mais je vais parler de la sécurité parce que le harcèlement, c'est une des causes qui revient souvent chez les jeunes. Et au Parti Socialiste, nous voulons des actions concrètes. Alors par des campagnes de sensibilisation, évidemment, mais aussi sur le terrain. Nous voulons mettre en place, par exemple, un réseau de proximité qui relierait les commerçants, la ville et la police, mais également la création d'un QR code. Ce QR code serait disponible partout dans le centre-ville, dans les villages, aux abords des écoles, mais également sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Et en fait, en le scannant, on regrouperait tous les numéros d'aide actuels disponibles pour la lutte contre le harcèlement, les différents types de violences physiques ou psychologiques. Il faut que Tournai redevienne une ville saine, une ville où quand on sort, on en a marre de se faire siffler en rue, on ne veut plus changer de trottoir, on en a marre de se retourner pour voir si on essuie. On doit vraiment retrouver une ville saine, accueillante, festive, pourquoi pas en y faisant venir nos artistes locaux, se produire sur la place Saint-Pierre, dans les villages, vraiment essayer d'avoir un Tournai jeune, moderne et sécuritaire.
Emma Velge, pour les engager, votre proposition en faveur de la jeunesse?
Je suis un peu d'accord avec Blandine, c'est vrai qu'il faudrait redynamiser Tournai, même si c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'infrastructures, mais je trouve qu'on les exploite pas assez à mon goût. On pourrait, c'est vrai, utiliser beaucoup plus d'infrastructures et souvent les meilleures soirées, je trouve qu'elles se passent pas vraiment dans le centre-ville, mais plus dans les petits villages où il y a moins de monde. Après, c'est vrai que d'un point de vue sécurité, c'est à revoir parce que j'ai pas toujours envie de sortir quand il manque de sécurité. Pour les jeunes, on a beaucoup de projets, mais d'abord de la sécurité et de l'attractivité à revoir.
Amaury Vercreuse, du côté du MR, votre proposition?
J'ai plein de propositions. Déjà, il y a beaucoup d'activités à faire dans le centre-ville, mais qui malheureusement sont gâchées par le manque de sécurité et de mobilité. Il faudrait que la ville s'implique dans tout événement, même minime, et même si elle ne l'organise pas, pour garantir une sécurité. Ensuite, il faudrait que la création de maisons de jeunes dans les villages, pour que les villageois ou les jeunes puissent se rassembler, tisser du lien, se connaître et se reconnaître. Ensuite, il faudrait plus de bus, surtout les week-ends et tard le soir, pour que les jeunes puissent venir à Tournai et repartir en toute sécurité. On pourrait faire cela par une convention avec l'ETEC, entre le conseil communal et l'ETEC. Et finalement, il manque d'activités pour les adolescents et les post-adolescents. Il faut les intégrer dans un processus de création et d'organisation de ces événements-là. Ça pourrait se faire par un email envoyé à tous les étudiants ou encore par la réanimation du Conseil consultatif des jeunes qui est aujourd'hui moribond et qui serait peut-être le fer de lance de Tournai pour sa redynamisation.
Tom Vandenhoven pour Écolo, quelle est votre proposition phare prioritaire pour la jeunesse?
Alors en effet, on a plein de propositions. On sait que les jeunes ont plein de choses à dire. On parle de tout un tas de choses. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Durant ce débat, on n'a pas tellement parlé du changement climatique. Et pour nous, en tout cas chez Écolo, évidemment, c'est dans notre ADN. On a beau parler de toutes les thématiques qu'on veut, si on ne prend pas en compte le changement climatique, on peut tout refaire. Voilà pour la parenthèse. Alors, la proposition phare de notre programme, je dirais, même si on en a plein d'autres, ce serait de créer des budgets participatifs spécial jeunesse. Ça permettrait aux jeunes de s'épanouir dans leur commune, de se réapproprier l'espace public. Ça leur apporterait une aide financière, mais aussi organisationnelle, pour organiser des événements qui les intéressent, en fait, pour rendre Tournai plus attractif pour les jeunes. On veut aussi, évidemment, soutenir les événements culturels pour et par les jeunes, donc demander leur avis sur les événements qui se passent dans la commune de Tournai. On veut garantir une infrastructure sportive multisport par district, la rendre accessible en transport en commun et la rendre accessible financièrement également. Et on veut faciliter l'accès à des locaux pour les mouvements de jeunesse.
Emma Delbecq, pour le PTB, votre proposition?
Alors avec le PTB, on veut vraiment que la jeunesse soit une priorité dans notre commune. Donc pour ça, on a déjà parlé, il faut plus d'infrastructures. Par exemple, on veut des maisons de jeunes où on peut faire des activités, des écoles de devoirs. Il y aurait du Wi-Fi aussi gratuit pour avoir accès à toutes sortes de choses. Mais pour avoir accès à ces infrastructures, il faut aussi plus de bus. Et on le voit, l'autre jour, j'étais à Vezon. il y a 6 bus qui passent et il n'y en a aucun qui passe le week-end. Donc pour ces jeunes qui vivent dans les villages, c'est une vraie galère de pouvoir aller au centre-ville, dans d'autres villages, de profiter de leur ville. Donc on veut aussi qu'il y ait plus de bus, qu'il y ait un partenariat avec les techs justement, pour qu'on puisse avoir des bus plus fréquents. Et on voudrait aussi, nous, la gratuité des transports, parce que ça permettra à tous les jeunes de se déplacer plus facilement. On voit qu'à Dunkerque, il y a 130% de gens en plus qui prennent les transports en commun depuis que c'est gratuit. Et ce qu'on veut aussi, c'est de pouvoir prendre ces transports en commun, être en sécurité dans la ville. Et pour ça, on veut plus de police de proximité et aussi dans les lieux festifs, mettre des points violets. C'est des endroits où on pourrait avoir des informations pour quand on est victime de violences sexistes et sexuelles, et avoir cet endroit pour pouvoir se recueillir, savoir déposer sa plainte. Donc voilà.
Il vous reste 20 secondes. S'il y avait une des propositions faites par les autres partis, Emma Delbecq, qui vous a le plus convaincue, ce serait laquelle ?
Je dirais quand même, moi je suis plus pour les transports en commun pour les jeunes, parce que quand je parle avec eux, c'est ça qu'ils me disent, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir bouger, profiter de leur ville. Donc moi je suis plus, notre fer de lance vraiment, c'est les transports en commun, plus fréquents et gratuits.
Tom van den Hoven, vous, est-ce qu'il y a une proposition qui vous a parlé un peu plus que les autres ?
Mais je me rends compte que je n'ai pas parlé de sécurité et que tous les autres l'ont fait. Donc je vais parler un petit peu de sécurité aussi. Nous, on rejoint un petit peu le PTB là-dessus. Il faut absolument plus de police de proximité, de la police qui soit proche des gens, qu'il y ait un vrai lien qui se crée entre la police, parce qu'on le sait, quand on sort sur les quais et qu'on voit un combi de police passer, tout le monde se tient un carreau. Et c'est pas ce sentiment de peur qu'il faut véhiculer, c'est ce sentiment de sécurité via de la police de proximité.
Amaury Vercreuil, même question.
Bien, je rejoindrai plus sur quelques idées. Le PTB, notamment sur les transports, parce qu'on en a tous les deux parlé, d'ailleurs. Et aussi, je rejoindrai plutôt aussi les jeunes, parce que finalement, c'est ensemble que l'on va construire Tournée de demain.
Emma Velg, pour vous, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que vous avez entendu ?
C'est vrai que cette idée de QR code partout dans la ville est vraiment interpellante. Et pourquoi pas créer un autre QR code ou une plateforme qui regrouperait tous les événements dans Tournée et ses villages ? Parce que je trouve qu'on n'est pas assez au courant des événements, que ce soit des fêtes, des inaugurations, des hommages. Et je me dis que si un QR code ou un site internet, une plateforme, une application spéciale Tournée existerait pour qu'on ait plus d'informations, ce serait vraiment top. Que ce soit pour les jeunes, pour les rencontres ou intergénérationnelles, ce serait top.
Blandine Motte, temps 23 secondes.
Oui, je suis d'accord avec Emma sur le fait des événements. Maintenant, je pense que c'est à nous de nous y intéresser aussi, parce que des événements, il y en a, de la publicité, il y en a. Alors effectivement, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'à Tournée, c'est un peu égoïste de dire « j'ai rien à faire », parce que ce n'est pas la vérité. Il y a plein d'événements, tout au long de l'année, il y a des événements culturels, sportifs. On a énormément de clubs de sport qui jouent à un certain niveau. Donc je pense que c'est vraiment important de s'y intéresser également et faire l'effort en tant que jeune.
Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce débat des jeunes. Nous arrivons ici au terme, non seulement du débat de Tournée, mais des 24 débats communaux et provinciaux organisés par nos télés. Ils se sont tous déroulés dans une ambiance très constructive, avec effectivement des désaccords, mais qui ont toujours été manifestés de manière courtoise. Et c'est cela, la démocratie.
Merci à tous les candidats qui ont participé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les résultats commune par commune, ce sera sur nos télés à partir de 16h ce dimanche et sur notre site internet. Passez une bonne soirée. Au revoir.